Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, l'émission de contes, bien sûr, des histoires, des légendes et parfois même des feuilletons, des histoires à suivre. Et là, vous êtes tous suspendus au poste pour entendre la deuxième partie de l'histoire qui a été contée la semaine dernière et qui commençait, c'était la première partie, Chelem et Zeila, une histoire qui vient d'Abyssinie. Une histoire, voilà, une belle histoire d'amour. Et donc, comme la dernière fois, on avait fait une petite introduction, un peu pour parler de choses dont on ne parle pas d'habitude. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne heure pour parler de ça à la radio? Mais c'est ainsi. Si ça vous dérange, vous pouvez toujours couper le poste, mais gardez l'oreille ouverte. L'enfant dit « Et si on restait encore dans le noir ?» Omar Khayyam dit « On dit qu'au paradis, les filles aux yeux noirs, du vin et du miel seront là midi et soir. Quelle honte alors y a-t-il à boire et à aimer, puisque c'est en quelque sorte notre destinée ?» Le Béarnais dit « Ce qui est fendu ne peut être défendu. Le boulanger dit « Je pense sans cesse à votre maîtresse quand je pétris la pâte ou enfourne mes michets. Et chaque fois, je m'embrase. Pris dans un feu dévorant, je souffre et je gémis, le corps en fièvre, le cœur en perdition et l'esprit entre Gaillac et Rabastens. » « Que t'a dit le boulanger ?» demande la maîtresse. « Qu'il voulait coucher avec vous. » Il l'a dit aussi crûment que non. Il a employé bien d'autres mots en quantité, mais l'essentiel du message, c'était ça. La béarnaise dit « Poil de con tire plus que câble de navire. » Verlaine dit « Bien léché, oui, mais apprends diable ton petit con taquin coquin qui rit rouge sur fond de sable telles les lèvres d'Arlequin. Comme la béarnaise, Verlaine dit con. Et le con dit Verlaine. Le Verlan dit te chat et la bise dit minou. François Villon dit conil et Nicole voit francillon. La fermière dit abricot et l'aubergine dit amande. La mère dit « coquillage », mais le belge ne dit pas « moule ». Aux Pays-Bas, on dit « salle des fêtes », et à la salle des fêtes, on dit « Pays-Bas ». Dali dit « sourire vertical », et Salvador dit « bouche de gala ». Le dico dit « vulve », et chez Vulco, on dit « boîte à outils ». Renaud dit « berlingo », et Berlaine dit « organe », l'ours dit « la caverne », et l'ours sonne « la clochette ». Zézette dit « Zizette » et Alice dit « Calice ». Lucie dit « Jardin des plaisirs » et le lucide dit « Empire du milieu ». La bouche dit « Lèvres » et le doigt « Fourreau ». Émile dit « Pertuis » et Gandhi « Yoni ». Vénus dit « Temple » et Aphrodite « Child ». Et je dis « La tirelire est pleine ». Voler. Volez haut si vous voulez aimer, disent les oiseaux. Rampez, rampez bas si vous voulez aimer, disent les escargots. Les serpents pensent que les escargots ont raison. Les dragons se tâtent. Et les humains aimeraient bien tutoyer plus de fesses. Musique éthiopienne pour cette histoire qui nous vient de là-bas, Chelem et Zeila, la deuxième partie. Alors allons-nous faire un résumé de l'épisode précédent, vite fait. Zeila, princesse, Chelem, jeune débarqué de la montagne. Ils se sont vus et je crois que c'est le coup de foudre. Et depuis, Chelem s'est bien décidé à enlever, conquérir, aimer Zeila. Et la première chose qu'il a fait, c'est creuser un tunnel. Imaginez un peu le changement dans la vie de Zeila. Bien que fille du sultan, riche et sans conteste la plus belle fille du royaume, elle est en prison. Dorée, certes, mais prison quand même. Seul, son mari, le riche bijoutier qui a aidé le sultan au bon moment, et seul son mari a la clé des appartements où elle est enfermée avec ses deux fidèles servantes. Elle n'a nulle autre compagnie le jour et le soir. Bien sûr, le bedonnant bijoutier lui parle en long et en large de ses bonnes affaires, avant d'exiger parfois la satisfaction de quelques ardeurs. À 20 ans à peine, la perspective d'année entière dans ce train-train a des allures de cauchemar. Heureusement, Chelem est entré dans sa vie et il a creusé un tunnel. Aux yeux de tous, et surtout son mari, rien n'a changé. Elle est recluse, enfermée. Mais en réalité, pour Chelem et pour elle, il n'y a plus de prison. Liberté quasi totale. Oui, je dis quasi parce que pour éviter d'être démasqué, ils ont dû prendre quelques précautions. Je vous mets au parfum. Tous les deux n'ont qu'une envie pour l'heure. Être ensemble pour se mignonner coquinement tout à loisir. Alors soit c'est Zeila qui rejoint son amant, soit c'est l'inverse. Et si le mari vient la voir, la porte qu'il ouvre de sa clé donne sur une pièce, un salon où toujours une des servantes accueille le maître de maison et lui dit qu'elle va prévenir son épouse. Elle pénètre alors dans la chambre de Zeila, descend par l'escalier à la cave où elle n'a qu'à tirer une ficelle, à l'autre bout une clochette, ding ding. Zeila est prévenue, se précipite dans l'état où elle est, nue, habillée, moitié échevelée, peu importe, car arrivée dans sa chambre, elle se glisse dans son bain de rose que sa servante a gardé tiède. Votre épouse est dans son bain, mais elle veut bien vous recevoir. Et si Chelem était chez Zeila? C'est encore plus facile. La servante dit, maîtresse, votre mari est là. Chelem alors se glisse dans la cave et disparaît. Et Zeila se glisse dans son bain. Ou parfois, elle reste au lit. Encore froissée de leurs ébats, elle prétexte une indisposition et son mari s'assied au pied du lit pour lui parler. Parfois même, Chelem ne prend pas le tunnel et reste sous le lit. Il écoute le récit des prouesses commerciales du bijoutier et aussitôt celui-ci retourné à son commerce, les deux amants reprennent le leur avec ardeur. Ils sont jeunes, amoureux, et ils explorent tous deux avec une avidité joyeuse les innombrables jeux de ceux qui s'aiment et se désirent. La situation est donc déjà assez pimentée comme ça, mais Zeila a des idées pour mettre encore du piquant. Et ils mettent en œuvre tout un stratagème avec la complicité des servantes de Zeila et de la veuve du marchand de babouches, qui héberge chez M, ravie de vivre une histoire d'amour, même par procuration, elle leur donne toujours de judicieux conseils. À propos de cette vieille, je ne vous ai pas trop parlé d'elle, elle s'appelle Asia, et je résiste pas à l'envie de vous raconter une toute petite histoire qui lui est arrivée beaucoup plus tard. Elle était toujours veuve, toujours seule, avec son chat dans sa maison, et comme ça arrive quand même dans ces pays-là, par chez nous ça arrive moins souvent, hein, elle trouve un jour une lampe, elle veut la frotter pour la faire briller, un génie sort, merci de m'avoir libéré, je te donne 3 vœux. Ça c'est bien pratique, je sais pas si vous êtes capable comme ça là sur le champ d'imaginer les trois vœux que vous feriez si une pareille aubaine survenait dans votre vie. En tout cas, la vieille s'est pas démontée, elle était là, 3 vœux, 3 vœux, bon, eh ben allez, la jeunesse. Et poum, elle retrouve ses 20 ans, belle, fraîche, en pleine santé. Ça c'est bien. Voyons, deuxième vœu. Bon, allez, hein, la richesse. Fouf, sa maison devient luxueuse. Elle a des coffres garnis de bijoux, de pierres précieuses, de quoi voir venir. Donc ça y est, bon, ça c'est fait. Troisième, dit bon, ben qu'est-ce que je peux demander? C'est déjà bien. Mais le génie a ses 3 vœux à lui fournir. Il insiste, il lui dit mais quand même un peu de compagnie, c'est pas plus mal. Oh, mais j'ai mon chat, je m'en très bien avec lui. Ton chat, dit le génie, mais si tu veux, je le transforme en un beau jeune homme. Ah bon? C'est possible, dit la vieille. Mais oui. Et voilà que le génie, foum, transforme le chat. Alors c'était un bon génie, savait y faire. Le chat, en plus, il était beau, et le résultat est un jeune homme splendide. Une musculature, une peau dorée, cuivrée, un sourire, enfin bref. Et là, bien sûr, la vieille, enfin, redevenue jeune, c'est pour ça qu'elle a des excuses, elle n'a pas pu résister. Elle lui a sauté dessus pour le couvrir de baisers et de caresses. Et dans le déluge de sensualité torride qui s'en est suivi, il faut retenir une chose, c'est que quand même, elle a bien regretté, et il y a quelques années de cela, parce que son chat courait trop, les chattes à chaleur, elle a bien regretté de l'avoir fait opérer. Nous en étions où de cette histoire de Shem et Zeila? Ah oui, voilà, un stratagème. Voilà comment ça commence. Shem traverse la rue. Pas par la voie souterraine qu'il a lui-même mis en service. Non, ce matin-là, il circule en surface. Tout le monde le voit entrer dans la bijouterie et ressortir peu de temps après avec le bijoutier et traverser à nouveau la rue. « Je veux vous montrer un objet précieux que j'ai l'intention d'acheter. J'ai besoin de votre avis. » Flatté, le bijoutier accompagne le faux prince avec un énorme sentiment d'importance. C'est très répandu, le sentiment d'importance. Hein, c'est ce qui me rend con, en fait. Passons. Donc, dans son bureau, GM installe l'orfèvre dans un fauteuil confortable et s'assied lui-même de l'autre côté de la grande table. Il sort de sa poche une clé, ouvre un coffre de bois derrière lui contre la tenture et en sort un objet magnifique. On dit qu'il a appartenu au roi Salomon. C'est un poignard dans son fourreau. Lame parfaite, manche finement ciselée, incrustée d'ivoire et de nacre, fourreau rehaussé d'or et de pierres précieuses. Montrant sa trouvaille, Shem se délecte de voir la perplexité du bijoutier. Celui-ci finit par dire « Vous savez, je suis très étonné. J'ai chez moi un poignard en tout point semblable à celui-là et on m'avait assuré qu'il s'agissait d'une pièce unique. D'où le tenez-vous donc ? L'ami qui me l'a confié ne m'a pas précisé son origine, mais il en demande 30 pièces d'or, qu'en pensez-vous ? Je vais vous répondre, mais laissez-moi quelques minutes. Je me rappelle à l'instant que je dois régler une affaire urgente à la boutique. Je reviens. Une affaire urgente? Bon, je vous raccompagne à la porte, mais laissez-moi cadenasser cet objet en ce coffre. C'est plus prudent. Et les voilà qui sortent. Mais aussitôt, en dessous du bureau, à la cave, une servante de Zeyla montée sur une chaise tend la main à travers un trou dans le plafond et l'attrape dans le coffre, directement, qui a aussi un trou ménagé, le poignard du roi Salomon, et se précipite aussitôt vers l'entrée du tunnel. En surface, au même moment, Chéhem et le bijoutier sortent dans la rue et commencent à marcher vers la boutique. La servante fonce, baisse la tête pour éviter la poutre, pénètre dans le trou, descend plus profond, contourne les flaques pour ne pas se retrouver toute mouillée. Ce tunnel est sinueux, il faut éviter de trébucher dans un trou, elle zigzague entre les obstacles, tout ce qui étaye la galerie, principalement des poutres. Attention, au bout ça remonte raide. Pousser le meuble qui masque le trou, le remettre en place. Elle est dans la cave de Zeyla. Vite, elle monte les quelques marches. Zeyla attrape le poignard des mains de la servante, essuie l'objet pour effacer toute trace et hop, remis en place dans le coffre. Clic-clac, fermé à clé. Votre mari désire vous voir. Un instant, dit Zeyla. J'entre dans mon bain. Le bijoutier ne l'a même pas regardé. Sourcils froncés, il fonce vers le coffre, l'ouvre de sa clé. Ouf ! Le poignard de Salomon est là. Dirait qu'il a soupçonné Zeyla de l'avoir volé. Après tout, le coffre est dans sa chambre. Et elle a une clé qu'il a tenue à lui donner en signe de confiance. Bon, la confiance dans ce cas est limitée puisqu'elle n'a pas les clés de son propre appartement. Mais bon, non, il s'est trompé. Tout va très bien, monsieur le bijoutier. Il s'excuse auprès de sa femme pour cette intrusion précipitée, lui fait des compliments sur sa beauté et prend congé, un grand sourire sur sa face. Aussitôt, coffre ouvert, poignard empoigné, les escaliers, la cave, tirer le meuble qui masque le trou, pénétrer dans le trou, attention, ça descend profond, zigzaguer entre les obstacles et tout ce qui étaye le plafond, principalement des poutres, éviter de trébucher dans un trou, contourner les flaques pour ne pas se retrouver tout mouillé, attention, au bout, ça remonte raide, sortir du trou, aïe, baisser plus la tête pour ne pas se cogner à la poutre, et hop, dans la cave, vite. La servante se met sur la chaise, sur la pointe des pieds et au-dessus d'elle. Chelem et son meilleur ami s'installent à nouveau. Terminons avec cette affaire de poignard. Chelem ouvre le coffre et attrape l'objet des mêmes mêmes de la servante. 30 pièces d'or sans hésiter, c'est une affaire. Cet objet en vaut le double. Le bijoutier est un peu jaloux. Lui a payé le double. Merci, merci, merci. Grâce à vous, mon ami, je vais faire une excellente affaire. Une excellente affaire. Une excellente affaire. On cherche tous à faire des excellentes affaires. Tout dépend ce à quoi on accorde de l'importance. Trois vœux, par exemple. Obtenir trois vœux d'un génie, c'est une excellente affaire. Tiens, je vais en vitesse, avant de terminer avec Chéhem et Zeyla, raconter les trois vœux d'un homme. J'ai raconté tout à l'heure les trois vœux d'une femme. Bon, c'est un principe de parité. C'est un homme, donc. Un homme qui obtient trois vœux. Lui était déjà riche. Et donc ça fait déjà un peu de moins. C'est... Mais c'est autre chose en fait qui l'intéressait, hein, comme quoi la richesse ne peut pas tout. Ou plutôt qui le dominait. Hein. C'était un homme qui avait un appétit sexuel démesuré. Démesuré. Et donc il a utilisé toute sa fortune. Je vous passe les maintes péripéties qui ont... qui l'ont amené finalement à abandonner une bonne partie de sa fortune pour se retrouver avec trois bâtons d'encens. Ah, vous me direz, là, c'est pas brillant, mais ce ne sont pas des bâtons comme les autres. Et oui, pour voir un vœu se réaliser, il suffit d'en allumer un et de faire le vœu. Et il en a trois. Alors, Le voilà qui rentre chez lui avec son trésor, impatient d'essayer cette magie pour satisfaire ses appétits. Et sur le chemin, il croise, non pas une jeune fille, mais comme Maxime le forestier, tout un pensionnat. 40 jeunes filles en fleurs, toutes plus charmantes les unes que les autres. Évidemment, le désir le submerge. Que faire? Laquelle choisir? Soudain, une idée à la mesure de son appétit lui vient. Il allume un encens et dit « Je souhaite pouvoir les posséder, les 40, en même temps. » Pouf! Son vœu est exaucé. Et son corps se retrouve affublé de 40 verges en érection. 40 sexes masculins qui jaillissent de sa chair, partout même sur son visage. Bien sûr, les jeunes filles sont épouvantées à la vue d'un pareil monstre et elles prennent toute la fuite. L'homme lui-même est assez effrayé par sa mutation subite. Il s'empresse de brûler un encens en disant « Que tous ses organes disparaissent !» Ça marche bien, la magie. Ça marche bien. Tous les sexes disparurent. Tous. Si bien qu'il y eut un endroit où il manquait quelque chose. Heureusement, il lui restait un bâton d'encens. Mais l'histoire rajoute qu'il a longtemps pleuré sa fortune partie en fumée inutile. Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vous ai un peu égaré parce que non seulement c'est une histoire à suivre et qui a commencé déjà dans une autre émission, mais en plus il y avait deux autres tiroirs qui vous compliquaient. Mais c'est ainsi. La semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière partie de Chez M. Ezeïla. Ciao, c'était Marco, compte à rebours.